Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, Yasmine annonce hier de Justin Trudeau avec son trio de ministres forts, ministre des Affaires étrangères, vice-première ministre et ministre de la Défense, pour parler de l'aide à l'Ukraine. On va envoyer 60 soldats supplémentaires et du matériel non létal. Là. On parle de lunettes, par exemple, pour voir dans le noir, veste pare-balles aussi, là.
En fait, c'était une annonce qui aurait pu passer par un communiqué de presse très facilement parce que parler de 60 soldats supplémentaires quand on sait que c'est une centaine de milliers de soldats russes qui sont amassés aux frontières avec l'Ukraine.
Ouais, c'est 30% de plus que ce qu'on a déjà là-bas.
Et ça reste une très petite goutte d'eau dans l'océan de ce conflit-là. Mais moi, c'est surtout le contenant, disons la forme de ce point de presse qui m'a surprise. Tu parlais du premier ministre avec son trio de ministres, ben il y avait une intrus là-dedans et c'était Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, n'avait aucun rapport dans ce point de presse-là. Il fallait que ça soit la ministre des Affaires étrangères puis lui donner les coups des franches et la visibilité et la crédibilité et l'appui. Pas en deuxième prise de parole, la vice-première ministre qui est d'origine ukrainienne puis qui parle de ses origines ukrainiennes, elle qui est interdite de séjour en Russie. C'était quoi le lien d'avoir Chrystia Freeland? Parce que là, ça crée une confusion dans le message. Est-ce qu'on défend les intérêts du Canada ou on défend les intérêts personnels de l'attachement de Chrystia Freeland à l'Ukraine? Et c'était inutile, complètement inutile, que Chrystia Freeland soit là. Son titre de vice-première ministre, c'est de remplacer le premier ministre quand il ne peut pas être présent à certains événements, pas de venir appuyer une deuxième fois des annonces qui ne la concernent pas dans son portefeuille.
Ouais, disons que Mélanie Joly devait pas être contente, Anita Anand non plus, les deux qui sont aussi sur la courte liste pour possiblement remplacer Justin Trudeau, Dominique. Là.
Ben, exactement. On sent que le premier ministre a peut-être une préférée pour l'instant, si on devait lui poser la question qui va le remplacer. J'espère que ça sera pas trop évident, parce que souvent quand il y a quelqu'un qui est mis en vitrine comme ça, le mouvement Anybody But s'organise, se coalise, se trouve un candidat
n'importe
alternatif.
N'importe qui sauf cette personne-là.
N'importe qui sauf cette personne. Donc, c'est ce que M. Trudeau risque de donner, mais pour revenir à l'annonce elle-même, moi, j'ai fait une blague sur Twitter hier que personne n'en a ri, fait que je vais la répéter ce matin ici.
Oui, okay.
Mais c'est comme si le gouvernement fédéral avait dit qu'en solidarité avec l'Ukraine, les cafétérias des édifices fédéraux n'allaient servir que du poulet à la Kiev là, pendant quelques jours. Ça a à peu près le même effet. C'est que
ben,
bon, un pays du G7. Merci.
L'effort est là.
Je pensais que tu parlais du même effet que sur Twitter.
mais donc, tu sais, c'est sûr que la réponse des pays occidentaux à la Russie se range dans plusieurs catégories. Il y a des pays qui disent « on va fournir des armes, l'Angleterre, les États-Unis en sont ». Il y a des pays qui ont une rhétorique assez belliqueuse, la France, M. Macron qui est tapé assez fort, qui va rencontrer M. Poutine cette semaine. Il y a des pays comme l'Allemagne où ils disent ah, « peut-être que la solution
ils disent pas
est diplomatique
grand-chose, ouais. ».
Ils disent pas grand-chose, mais eux, faut dire que l'Allemagne se chauffe pour beaucoup au gaz naturel et que le gaz naturel vient, comme par hasard, de
exact.
La Russie. Et nous, on se range comme dans cette catégorie-là des Allemands, mais notre gaz naturel ne vient pas de la Russie. Là, on pourrait dire plus, on pourrait faire plus, mais j'ai l'impression que le Canada a décidé de se dire « ouais, nous, on veut... » on veut dire qu'on est vraiment d'accord avec avec l'Ukraine. D'ailleurs, il y a eu toute la diplomatie Instagram là, des gens qui se prenaient en photo avec une feuille de papier qui disait qu'ils étaient derrière l'Ukraine. Mais ça, les gestes, ça ne suit pas. Puis je trouve que ça montre beaucoup le déclassement canadien en matière de rôle sur la scène internationale depuis une dizaine d'années.
Ouais, parce que c'est un peu le strict minimum, Yasmine, qu'on fait. Mais en même temps, il y en a qui disent, en faisant ça, on est capable d'envoyer des militaires sur place sans envenimer le conflit. Parce que les Américains n'envoient personne pour le moment, les Français non plus, parce que justement, on veut éviter de donner l'occasion à Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc, le Canada, au moins, peut faire quelque chose, peut envoyer des militaires là-bas, ce que les autres ne peuvent pas faire.
Mais ça envoie peut-être pas des militaires, mais ça envoie des armes létales, de l'équipement létal. Donc, tant la Grande-Bretagne, pour détourner du Partygate, va là-bas pour dire on va appuyer l'Ukraine, que les États-Unis, en pleine déconfiture de politique nationale, essayent de se trouver un ennemi commun pour ressoudre la société de plus en plus divisée, disent, ben maintenant, Vladimir Poutine est un nouvel adversaire aux États-Unis, puis on repart cette rhétorique de on a un ennemi commun, celui de la Russie. Le Canada est comme, hein, guys, j'ai pas vu ça venir, qu'est-ce que je peux faire? Voulez-vous que je vous entraîne pour vous aider parce que
il était déjà là-bas, là. Il y avait déjà des soldats en Ukraine.
Puis on envoie 60 de plus, comme si c'était une annonce à faire. Le premier ministre qui sort pour dire on en envoie 60 de plus, puis qu'on est prêt à aider l'Ukraine, c'est un non-événement politique, c'est un non-événement diplomatique surtout. C'est le minimum requis, le strict minimum requis. Et encore là, ça devient de la politique interne. On sait qu'il y a près de 2 millions de Canadiens d'origine ukrainienne, et le fait que Chrystia Freeland soit là, c'était pour faire de la politique interne, pour parler à ces Canadiens d'origine ukrainienne et leur dire les intérêts de l'Ukraine, vous êtes représentés dans la prise de décision de cet enjeu géopolitique. Mais je ne sais pas si c'était dans l'intérêt du Canada au complet.
Mais le Canada peut faire un peu plus, Philippe Vincent, je prends 30 secondes là, pour dire qu'il y a des soldats qui sont actuellement qui sont en Estonie, des soldats canadiens, dont des soldats du Royal 22e qui sont partis d'ici à Québec pour faire des exercices. Donc, il y a plusieurs centaines de soldats canadiens, plusieurs milliers de soldats canadiens qui sont dans les pays baltes et qui pourraient être déplacés si jamais ça s'avère nécessaire. Mais manifestement, le gouvernement ne pensait pas qu'à ce stade-ci, c'était une option.
Bon, revenons sur la politique québécoise, cette journée de caucus précessionnel, là, donc les rencontres des partis avant le début des travaux parlementaires la semaine prochaine. Parti libéral, on a beaucoup parlé avec l'opposition au troisième lien, leur position sur la taxe vaccin, même chose pour Québec solidaire, qui, dans le fond, les deux partis s'opposent à cette taxe vaccination, la taxe contre les non-vaccinés, là, Yasmine.
Oui, les discussions à l'Assemblée nationale au retour dès la semaine prochaine risquent d'être un peu plus acrimonieuses sur cette question de vaccin. Va-t-il devenir la question de l'urne également? C'est la question que je me pose étant donné l'opposition, on le voit maintenant, de Québec solidaire, des libéraux et d'Éric Duhaime. Est-ce que ça va devenir la question qui va cliver finalement les partis en chambre? Ça va être intéressant de voir le texte que va proposer le ministre des Finances pour déterminer comment cette vaccination, ce vaccin impôt sera imposé, parce que c'est aussi, le diable est dans les détails, et c'est cette mécanique-là qui va permettre de savoir est-ce que le gouvernement va trop loin, pas assez loin, qui il vise, qui il ne vise pas, est-ce que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, quand on parle des sans-abri, des personnes qui ne parlent pas français, à qui l'information n'est pas arrivée, vont devoir payer pour ça. Ça va être intéressant. Et aussi le montant. Personne ne parle aujourd'hui du montant. Je trouve intéressant les libéraux qui disent qu'ils sont contre et que ça va contre les principes de la santé. Mais rappelons-nous que Raymond Bachand avait déjà imposé une sorte de taxe pour la santé. C'était, je me semble, un 200 $ qui a finalement été enlevé par Philippe Couillard.
Ouais, la contribution santé. Dominique, c'est assez particulier cet argument-là quand même, quand on dit que ça s'attaque au principe d'universalité. J'essaie de comprendre quelles sont les bases là-dedans, là, de dire, ben, t'es pas vacciné, t'as une amende ou t'as une contribution supplémentaire, mais on va quand même te soigner, tu peux quand même être greffé des poumons, tu peux quand même avoir tous les soins nécessaires, ça, on te l'empêche pas, là.
Ben absolument pas. Et la loi est rédigée de telle manière à ce qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle à l'accès. Mais c'est pas, on parle pas d'un obstacle à l'accès ici. Là, c'est pas passer avec votre carte de crédit ici, monsieur ou madame, avant de vous en aller à votre chambre. C'est absolument pas comme ça que ça va fonctionner. Puis je pense que les juristes du gouvernement québécois en sont très conscients et qui doivent savoir exactement quel est le terrain de jeu, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment ils doivent rédiger. Fait qu'il va y avoir tout ça. Moi, j'ai été surpris. En fait, on voit ici que le PLQ et que QS sont sous pression de la part du PCQ, veulent pas laisser du Parti conservateur du Québec, veulent pas laisser à Duhem la totalité de ce discours-là. Puis QS qui va même là dans une position contre nature. Là, j'ai dû relire deux fois. Ils sont contre une taxe ou un impôt. Moi, j'étais complètement soufflé de voir que les solidaires étaient prêts à aller jusque-là pour ne pas se faire tirer le tapis sous les pieds.
Mais en même temps, on a un portrait ce matin dans la presse, notamment avec les travaux de l'Université de Sherbrooke, sur les gens qui sont non vaccinés. T'sais, puis il y en a là-dedans à peu près le deux tiers des 500 000 qui sont complotistes, qui pensent à des théories du complot. Ça va pas vraiment les faire changer d'avis, alors qu'on dit que pour l'autre tiers, vaut mieux y aller avec la main tendue ou la main dans le dos que les critiques directes pour les convaincre de se faire vacciner. Donc, est-ce que vraiment le vaccin pot, dans, je sais pas, moi, deux mois, lorsqu'il y aura peut-être même plus de mesures sanitaires, va être encore la bonne solution, là?
Ben, c'est sûr que ça ne pourra pas être de toute manière quelque chose de permanent. Puis c'est là où j'ai hâte de voir la pièce législative pour voir comment ça va être son application. Parce que va-t-on parler encore et va-t-on taxer les non-vaccinés dans trois ans si d'aventure il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de crise, on n'est plus dans les hôpitaux qui débordent? C'est particulier. Est-ce que ça va être momentané, dans le temps juste pour les prochains impôts, peut-être réapplicable pour une deuxième période d'impôts? Reste à savoir. Mais c'est sûr que ça peut pas être quelque chose de permanent. Il faudrait pas non plus qu'on prenne le réflexe de vouloir imposer des taxes ici et là, parce qu'aujourd'hui c'est la pandémie, demain ça pourrait être autre chose. Puis ce réflexe ne doit pas être un réflexe facile de toujours aller piger dans la poche de ceux que l'on considère pas faire partie de la bonne gang. Et je suis pour les vaccins, évidemment, et je suis pas en train de défendre les non-vaccinés, mais je suis en train de me demander que cette mécanique-là, il faut faire très attention d'une question démocratique, que ça ne soit pas un réflexe politique. Puis on sait que quand le gouvernement se prend des pouvoirs, c'est très difficile qu'il les redonne, c'est très difficile qu'il abandonne un pouvoir de taxation. Ça va être... Les partis d'opposition vont en devoir faire une méchante grosse job à surveiller cet aspect-là lors de l'Assemblée nationale, l'étude de ce projet de loi.
Ouais. En même temps, Yasmine parle de ce réflexe-là, Dominique, on l'a sur les cigarettes. Au Canada, on l'a sur tout ce qui est taxe carbone. On se demande est-ce qu'il faudrait le mettre sur les boissons sucrées, ce qui cause l'obésité, sur les F-150. Gabriel Nadeau-Dubois, il me semble qu'ils sont d'accord avec une surtaxe là, sur les gros véhicules, où ça va peut-être faire partie de leur proposition. À un moment donné, ces surtaxes-là existent, là, sont juste différemment, sont à l'utilisateur payeur, alors que là, avec un vaccin, c'est comme l'inverse. Là.
Absolument. Puis c'est pour ça que les gens disent qu'un chemin, une voie de passage, c'est de l'imposer à tout le monde, mais de le créditer à ceux et celles qui ont reçu des doses de vaccin. Comme ça, on peut pas dire que c'est une mesure qui vise tout particulièrement un groupe. Bref, mais le débat, moi, je m'attends pas à ce que ce soit rapide. Là. Dans les faits, le gouvernement pourrait juste dire, ben nous, on passe
en force.
On amène
ça en campagne électorale.
On amène ça en campagne électorale. On a l'appui de la population là-dessus. Le dernier léger le montrait. C'était assez fort. Mais je suis pas mal sûr qu'ils vont vouloir que la mesure soit le plus consensuelle possible. Ou peut-être, se disent-ils, on a tendu un piège en faisant flotter l'idée d'une mesure en lançant une balloune, puis en disant regardez, c'est très populaire selon le dernier léger, et les partis d'opposition sont tombés dedans en disant non, il faut défendre les un certain nombre de valeurs et puis tout ça. Peut-être est-ce que le gouvernement est mort de rire en ce moment en se disant bon, mais on vient de trouver la personne le coupable quand on sera pas capable de mettre en application cette mesure.
Mais il faudrait pas que le gouvernement lui-même tombe dans son propre piège. Puis rappelons-nous que la vaccination obligatoire du personnel de la santé, c'était quelque chose, une idée qui était défendue par les libéraux et le gouvernement, pour finalement ne pas être appliqué le 15 octobre, ne pas être appliqué le 15 novembre. Et c'est pas le Parti libéral qui a payé le prix politique ou le prix, s'il y en avait un, médiatique de ce recul. C'était bien le gouvernement. Donc, il faudrait pas non plus retomber dans cette même spirale où on fait proposer quelque chose, on dit qu'on va l'amener, on dit qu'on va l'amener, on dit qu'on va l'amener, on a fait en parler.
Ouais, pensons au passeport vaccinal dans les salons de coiffure et salons d'esthétique. Conférence de presse à 15h de Luc Boileau seul, du moins pas avec le premier ministre ni le ministre de la Santé. En quelques secondes, qu'est-ce que vous espérez entendre? Est-ce qu'il y a une chose que vous espérez comprendre cet après-midi, Dominique?
Moi, j'espère qu'il va expliquer les fonctionnements de la santé publique. Je sais qu'on est rendu à presque l'année 3 là, de cette pandémie-là, mais de dire qui ils sont, quel travail ils font, basé sur quelles études, comment est-ce qu'ils en arrivent à formuler des recommandations. Moi, j'aimerais ça que ce premier point de presse-là soit éminemment pédagogique.
Yasmine?
Moi, je veux savoir si le fait de ne plus faire de PCR pour la population générale a un impact sur les indicateurs qu'ils peuvent avoir pour les prises de décision. Ça, pour moi, c'est une question qui n'a pas été assez abordée. Le fait de ne plus avoir de PCR, de ne plus savoir l'état des éclosions, combien il y a de personnes qui ont la COVID actuellement, est-ce que ça peut rajouter un degré, alimenter marge d'erreur dans les avis de la santé publique et si on devrait revenir à des PCR ouverts à tous.
Ouais, idéalement, là, je pense que je l'entendais en entrevue, essayer de peut-être ouvrir la porte. Est-ce que ça se peut que ça revienne? Voir aussi sur les analyses d'eau usée, si jamais on va recommencer ça pour peut-être avoir une meilleure idée. Criblage qui va reprendre aussi, puis hâte de voir ce qu'il va dire sur les gyms qui vont décider d'ouvrir durant la fin de semaine. Eux qui disent, nous, pour la santé publique, le bien-être collectif, ça vaudrait la peine qu'on reste ouvert. Dominique, Yasmine, on écoute ça, on s'en reparle demain.
À demain.
Merci.